Bon, bonjour, en fait...
Bonjour. Oui, donc a priori, on va rentrer dans une logique éminemment pédagogique de répétition parce que pas mal des choses que je souhaitais dire ont déjà été dites à un moment ou à un autre. Et la chance, c'est que finalement, par rapport au texte que j'avais préparé, la conclusion de Marc Dufumier me permet de faire immédiatement la transition. Je voulais rappeler en début que finalement, l'agronomie et l'agriculture depuis deux siècles... semble n'avoir eu comme objectif que de se séparer, que de se détacher de la nature, et de façon finalement à ne pas en subir les contraintes réelles ou supposées. Et cette voie, elle a été, en tout cas sur le XXe siècle, apparemment efficace, puisque la production alimentaire a connu une croissance que, absolument inimaginable jusque-là. Mais on est arrivé, ça a été dit déjà plein de fois, au constat définitive des limites de cette approche. Et finalement, quand on parle aujourd'hui d'agroécologie, l'objectif sans doute, c'est en quelque sorte de renaturer l'agriculture et de replier ou de replacer l'activité agricole et nos sociétés tout entières, je dirais, dans le fonctionnement des écosystèmes. Finalement, aujourd'hui, on voit que l'agroécologie va être est un terme assez largement employé. Je tiens quand même à rappeler que c'est un terme qui est né dans les années 70, enfin, qui est plus ancien que ça, mais qui a commencé à prendre une certaine ampleur dans les années 70. Et c'est un terme qui est venu de chercheurs d'Amérique latine principalement, engagés dans une critique au nom de la préservation des identités culturelles indiennes, de la révolution verte, et pas seulement d'une critique économique ou écologique. L'agroécologie, au départ, a été, je dirais, un fait scientifique total. C'est-à-dire qu'elle a considéré tout à la fois des questions qui relevaient des techniques de production, des formes de mise en marché, des dimensions culturelles essentielles qui nous lient à travers l'alimentation à l'ensemble du vivant. Et cette agroécologie-là, elle a été reprise en France assez rapidement. Le premier livre d'Altieri, qui est l'un des premiers nord-américains à avoir écrit sur l'agroécologie, a été traduit en France par René Dumont en 89, enfin, non, était traduit en France et préfacé par René Dumont en 1986. Il n'a eu aucun écho. Il faut quand même dire les choses comme elles sont, sauf dans des organisations tout à fait marginales du mouvement social qui allait des producteurs biologiques à d'autres hurluberlus de la même sauce. Aujourd'hui, c'est un mot qui est revendiqué par l'INRA, qui en fait l'un de ses axes stratégiques, qui est revendiqué sous la forme de l'agroécologie, de l'agriculture écologiquement intensive, ou en tout cas qui intéresse des grands groupes coopératifs comme Terena, on en a parlé ce matin, mais également la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, qui a monté un groupe de travail sur l'écologiquement intensif. La FAO défend la Sustainable Intensification, je ne sais plus quoi, production, qui est grosso modo cette même forme appliquée à l'échelle du monde. Et le ministère de l'Agriculture, désormais, place l'agroécologie au cœur du projet Produire Autrement. Alors, on pourrait gloser et discuter toute l'après-midi sur la variété des interprétations de l'agroécologie ou sur la plus ou moins grande sincérité de ces professions de foi agroécologiques. Honnêtement, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Donc, je souhaiterais plutôt concentrer mon exposé sur les ruptures qu'impose l'agroécologie. Je l'ai dit, l'agroécologie, si j'avais envie de la résumer le plus simplement possible, ce serait cette idée de renaturer une agriculture par trop artificialisée. Et cette renaturation nous impose toute une série de ruptures, et des ruptures qui, évidemment, au premier chef, sont des ruptures techniques. Nous sortons d'un univers d'agriculture industrielle, et que je ne qualifie pas d'industriel par sa taille, mais par sa logique de pensée, dans laquelle le seul objectif était la maximisation du rendement, ou en tout cas son optimisation en fonction des facteurs de production mobilisés. L'agroécologie nous invite à penser aux termes d'autonomie, nous l'avons dit ce matin, et de résilience. C'est un terme qui a été plusieurs fois employé par Olivier de Schutter. Et l'agroécologie, on l'a vu, il y a des exemples probants, ça peut fonctionner, et des exemples probants qui répondent à cette approche, non plus centrée sur la production, mais centrée sur l'autonomie et la résilience des systèmes agricoles. En fait, quand on dit cela, on se rend compte qu'on transforme complètement ce qui était le critère d'identification de l'excellence professionnelle des agriculteurs dans l'épisode de la modernisation. Et je parle d'épisode parce que je pense que c'est un temps que nous avons vécu et dont nous sommes en train de voir la fin. Le bon agriculteur hier, c'était celui qui produisait beaucoup. Le bon agriculteur demain, ce sera celui qui produira en effet, mais qui également reproduira les services écosystémiques sur lesquels s'appuie cette agriculture fondée sur la mobilisation des facteurs naturels. Le bon agriculteur, ce n'est pas celui qui a le plus gros tracteur, c'est celui qui a la plus grande intelligence du milieu qu'il exploite. Et cette intelligence-là permet de renouveler les cadres même de l'identité agricole et paysanne. Ceci dit, la politique agricole commune que nous connaissons aujourd'hui est une politique fondée totalement sur la promotion de la production. Production qu'on va chercher effectivement, dont on va chercher à mesurer les impacts environnementaux en particulier en mettant en place des mesures d'éco-conditionnalité. Mais les mesures d'éco-conditionnalité ne sont toujours que secondes par rapport à l'ambition et aux critères qui déterminent les paiements qu'est la production. Plus vous produisez aujourd'hui en France, alors les raisons sont dans la mécanique des politiques sont assez complexes, mais plus vous produisez, grosso modo, c'est-à-dire plus vous avez de surface, pour dire autrement, plus vous gagnez. 80% des aides de la politique agricole commune vont à 20% des agriculteurs. La transition agroécologique commence par l'inversion nécessaire de ces proportions. Et de ce point de vue-là, nous devons inverser le sens des mesures d'éco-conditionnalité. Et je rejoins tout à fait, d'une certaine façon, Marc Dufumier. La question aujourd'hui, ce n'est pas de s'attaquer à des mesures incitatives dans le deuxième pilier de la PAC qui représente 4% du montant total de la PAC. C'est de s'attaquer aux 80% du premier pilier et de rémunérer dans ce premier pilier les agriculteurs, non pas au nom, même si on le cache, de la production, mais au nom de la reproduction des écosystèmes, de la reproduction des agroécosystèmes à laquelle ils peuvent s'engager à travers une démarche agroécologique. Ce qui doit devenir le critère de légitimation des aides publiques, c'est en effet la capacité des agriculteurs à produire des biens d'environnement qui sont des biens collectifs, qui sont des biens publics, qui sont aussi des biens privés puisque ce sont les facteurs de production des agriculteurs de demain. Et c'est parce que ces services écosystémiques ne sont pas marchands qu'il est légitime de rémunérer dans le cadre de l'OMC. Dire nous subventionnons la production de services écosystémiques est parfaitement indéfendable puisque les services écosystémiques sont par construction localisés et ne peuvent pas faire, à l'exemple des avantages comparatifs dont nous parlions à l'instant, l'objet d'une délocalisation. Les écosystèmes ont cette particularité essentielle d'être ici et pas ailleurs. Ailleurs, il y en a d'autres. Les écosystèmes, donc, cette première rupture est à la fois technique, on le voit, et immédiatement identitaire. Ce qui montre que la réflexion agroécologique n'est jamais qu'une réflexion technique. C'est toujours et en permanence une réflexion qui est technique, économique, culturelle, sociologique, tout ce que vous voulez. Le deuxième point, c'est de considérer finalement, j'ai parlé de service écosystémique, je ne sais pas si le terme avait été très employé ce matin. Le service écosystémique, grosso modo, sont les services que rendent les écosystèmes aux activités humaines à travers leur fonctionnement. Fonctionnement qui peut être orienté, piloté par l'homme, dans un sens qui soit plus favorable. Mais comme leur nom l'indique, les services écosystémiques, c'est des propriétés des écosystèmes. Et le moteur des écosystèmes, c'est la biodiversité. Or, la particularité de la biodiversité, c'est qu'elle ignore les frontières et les limites des objets qui sont ceux traditionnels de l'agronomie, le champ ou le troupeau. Un ver de terre va passer une vie modeste dans une fraction extrêmement limitée d'un champ. Et un oiseau qui, et ce ver de terre est essentiel à la reproduction de la fertilité des sols. Un oiseau qui va être prédateur de parasites des cultures va lui-même volter de champ en champ sans, en ignorant les frontières de ses champs et les limites des exploitations agricoles. Donc la biodiversité appelle une réflexion à l'échelle des paysages agricoles tout entier. Et l'agroécologie n'est véritablement pensable qu'à une échelle paysagère, autant qu'une échelle parcellaire, voire une échelle infraparcellaire. Donc l'agroécologie, c'est aussi un art de penser les articulations entre échelles spatiales, entre niveaux d'organisation. Mais qui dit articulation entre niveaux d'organisation, c'est pas juste un problème d'écologie du paysage. Un paysage, c'est un espace qui est construit et habité généralement par plusieurs individus, agriculteurs ou non-agriculteurs. L'agroécologie impose donc une pensée collective, une réflexion collective à l'échelle des territoires. Il n'y a pas d'agroécologie qui ne soit pas, y compris dans la définition de ces techniques, territoriales. Et ça, ça nous amène à une autre rupture qui est absolument essentielle. C'est-à-dire, nous avons vécu dans un modèle qui est celui de cette exploitation familiale autonome et indépendante. Le jeu des filières a fait que cette autonomie peut être aujourd'hui largement discutée et que cette indépendance est franchement, dans bien des cas, inexistante. Beaucoup d'agriculteurs ne sont aujourd'hui que les salariés des entreprises du secteur agroalimentaire qui ont la particularité par rapport aux autres salariés de payer eux-mêmes leur outil de travail. Mais penser, dire, nous devons penser à l'échelle paysagère et territoriale, implique de penser en termes d'action collective, implique non plus de penser à l'échelle de chaque exploitation prise une à une, mais de ce que j'appellerais des clusters d'exploitation regroupés dans des formes plus ou moins pas nécessairement fondamentalement structurées. Ça implique de passer d'une pensée, y compris dans la définition des politiques publiques, de l'exploitation à l'ensemble des exploitations inscrites dans un territoire. Le ministre de l'Agriculture, ce matin, a fait un exposé des motifs de la future loi, qui s'appelle loi d'avenir agricole, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, mais qui, finalement, passait peut-être un peu sous silence les dimensions concrètes de sa stratégie politique. Dans cette stratégie, il y a les fameux GI2E, les groupements d'intérêts économiques et écologiques. Cette logique des GI2E peut être une façon, effectivement, d'appuyer cette réflexion collective territoriale en faveur de l'agroécologie. Mais en même temps, on se rend compte combien la rupture culturelle, pour beaucoup d'agriculteurs, va être violente. Et on se dit, cette rupture, elle est impossible. C'est-à-dire sortir de l'idée de chacun chez soi. Pour autant, de façon assez étonnante, on voit, oh, ce sont sans doute des signaux faibles, mais apparaître aujourd'hui des inventions organisationnelles dans l'agriculture tout à fait originales. Ça va depuis les coopératives agricoles de production, les assolements en commun, les sociétés civiles laitières, les GAEC à 7, 8, 9 associés, chacun portant un atelier particulier, mais pensant la totalité de ces ateliers qui pourraient être chacun une exploitation individuelle dans une logique coordonnées. Ces formes existaient, si elles existent, c'est parce que de plus en plus d'agriculteurs se rendent compte que la défense de leur indépendance individuelle passe par l'action collective à l'échelle territoriale et non plus exclusivement par l'inscription dans des logiques mécaniques de filière. C'est finalement sur ces formes-là que nous devrons nous appuyer demain pour défendre l'agroécologie comme projet non seulement technique, mais comme projet partagé, comme projet socialement porté à l'échelle des territoires. Mais ceci dit, j'ai mis sans doute le doigt là, sans que vous en soyez rendu compte, sur l'un des problèmes principaux qui, pour moi, s'oppose à la mise en œuvre d'une transition agroécologique. Le modèle industriel d'agriculture que nous connaissons, le modèle technique industriel d'agriculture que nous connaissons, s'est construit en quelque sorte en coévolution avec un modèle industriel dans la transformation et la mise en marché des produits alimentaires et dans la consommation. Du coup, on a observé cette fameuse mécanique de spécialisation régionale issue de cette pensée strictement, là encore, d'une économie de premier degré, je dirais, mettant en avant les avantages comparatifs, qui aboutit à une spécialisation et une uniformisation à la fois des paysages et des produits à l'échelle nationale et mondiale, et une uniformisation des process de transformation et des process de mise en marché. Je ne sais plus qui disait 80% des produits laitiers, enfin si, c'était l'étude de Satori, 85% des produits laitiers sont aujourd'hui distribués par la grande distribution. C'est-à-dire, quoi, 6 groupes à l'échelle nationale? Non, on a plus de 3. 3 font 80%, oui. Respect. Le problème, c'est que l'agroécologie, je l'ai dit, c'est une façon de replier, de remettre l'agriculture dans la nature en s'appuyant sur les processus naturels. Or, la nature a un vice particulier, c'est qu'elle a horreur des standards et de l'uniformité. Les produits de l'agroécologie ne pourront pas répondre aux mêmes exigences de standardisation que les produits de l'agriculture industrielle. Ça signifie qu'il va falloir tout simplement réinventer la totalité du système alimentaire et pas seulement les techniques agricoles. Mais est-ce qu'on peut sincèrement espérer que l'agroécologie puisse concerner Carrefour, puisse concerner Auchan, puisse concerner Danone, puisse concerner Spanghero? Bon, Spanghero, avec un peu de chance, on n'aura pas à se poser de problème. Est-ce qu'elle peut concerner aussi mon voisin qui ne se nourrit que de plats tout préparés? Ça paraît effectivement un enjeu impossible que de vouloir penser, repenser, révolutionner, transformer la totalité du système alimentaire, de la production et de la consommation. Pour moi, je pense que ce n'est pas forcément impossible. D'abord, parce que la réactivité des entreprises du secteur agroalimentaire m'a toujours surpris. Il y a 10 ans, vous auriez dit le bio, c'est dans les supermarchés, dans les hypermarchés que ça se trouve, on vous aurait réo... enfin 10 ans, allez, 20 ans. On vous aurait rayonné. Aujourd'hui, où s'achètent les produits de l'agriculture biologique? Avant toute chose, dans les hypermarchés. On vous aurait dit, il y a 20 ans, il y a 30 ans, Carrefour se posera la question de linéaire d'alimentation locale ou au champ. Vous auriez dit, rigole. Ils le font. Finalement, François Thierry nous disait ce matin, il n'y a pas d'innovation sans contrainte. Bah, le tout, c'est de trouver les bonnes contraintes. Et ces bonnes contraintes, elles résident, bien évidemment, dans les instruments de politique publique. La proposition que nous faisait à l'instant Marc Dufumier quant à la place de l'achat public peut faire partie de ce jeu de contraintes, en imposant finalement l'idée, à travers la restauration collective publique, de la nécessité d'une alimentation locale. Je vais prendre un peu, excusez-moi. Bref, cet effort de transformation du système alimentaire, il doit être pensé dans la totalité des réformes de la PAC et des réformes nationales que nous envisageons. Je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. Je voudrais revenir ici sur une des questions qui a été posée ce matin, qui est celle d'une labellisation des produits agroécologiques. Je considère que l'agriculture biologique est une agriculture qui s'est positionnée sur des créneaux, qui s'est certifiée, ce qui garantit aux consommateurs le fait qu'effectivement, les produits de l'AB ne soient pas bourrés d'antibiotiques, de résidus de pesticides, etc. Dans le cas de l'agroécologie et de la transition dont nous parlons, il ne s'agit pas de définir une niche. Il s'agit de faire de l'agroécologie le cadre de référence général de l'agriculture. Dès lors, il ne peut pas y avoir de certification agroécologique. La seule certification que nous devons réclamer, c'est effectivement l'indication sur la totalité des produits alimentaires, de leurs coûts sociaux et environnementaux, un peu à la manière dont nous avons sur les machines à laver les échelles énergétiques. On aurait l'AB en vert, là, en A et vert, le poulet de chez Doux, l'industriel, en rouge, et en E ou F ou G. Bien moins, les choses seraient claires. Mais faire peser à ceux qui vont avoir à assumer le coût inévitable du changement le devoir de la preuve, alors que l'objectif, c'est de limiter les externalités négatives, est quand même assez paradoxal. Il serait naturel que ce soit plutôt aux produits non biologiques à se certifier qu'aux produits biologiques à se certifier. Parce que l'intérêt invite largement... Parce que c'est l'intérêt général qui est en jeu. Bref. Conclusion. Ça tombe bien. Je ne reviendrai pas sur la rupture épistémique qu'implique l'agroécologie, c'est-à-dire la rupture dans la conception même des sciences. L'agronomie a été normative, a été analytique et s'est appuyée sur l'idée d'identification en laboratoire, mais le laboratoire peut être une ferme expérimentale, hein, rassurez-vous, des bonnes solutions après avoir bien identifié les problèmes et les avoir bien découpés en tranches de saucisson. La particularité de l'agroécologie, c'est ce qu'a dit Marc Dufumier, c'est qu'elle nous invite à considérer à chaque fois des singularités, des situations situées, localisées, parce que chaque agroécosystème est spécifique et original. Donc, nous devons inventer une autre forme de penser la science appliquée à l'agriculture. Et c'est aujourd'hui, je crois, il me semble, le jour de l'Assemblée générale de la Société française d'agronomie, pour ma part, parce que je suis un agronome renégat, j'aurais tendance à avoir envie de déclarer qu'il faut sans doute enterrer l'agronomie, avec les honneurs militaires bien sûr, pour reconsidérer totalement l'intégralité de la pensée sur l'écologie de l'agriculture. Ça, c'est une petite provocation que je me permets à l'adresse de certains membres du public. Pour conclure donc, l'agroécologie serait une utopie. Je ne crois pas que ce soit une utopie, mais en tout cas, oui, c'est une vision à long terme. Nous ne parlons pas d'une révolution qui s'accomplira dans les 2 années à venir, mais bien d'un mouvement qui nous prendra, comme l'a fait la modernisation agricole, et peut-être moins de 30 ou 40 ans, parce qu'après tout, le passage d'une agriculture quasi médiévale dans bien des régions françaises à l'agriculture que nous connaissons aujourd'hui n'a guère pris plus de 25 ans. Vision à long terme donc. Mais nous devons veiller à ce que le terme ne soit pas trop long, parce que les conséquences pour chacun d'entre nous d'une procrastination seraient tout à fait tragiques. Nous devons engager la transition agroécologique, et pour ça il faut d'abord et avant toute chose plus d'audace dans la définition des politiques publiques. J'aurais tendance à dire qu'il faut un projet stratégique pour l'agriculture, un projet stratégique politique. La PAC aujourd'hui demeure entièrement modelée par le modèle que je qualifierais non pas de productiviste, mais de productionniste. C'est la production qui est au centre de tout. Et dont nous ne cherchons pour le moment qu'à limiter les impacts négatifs. Les aides du premier pilier, je l'ai déjà dit, offrent à ceux qui demeurent dans ce modèle productionniste des avantages comparatifs indus. Et il va falloir, la première des choses à faire, c'est de faire sauter la digue de ces avantages comparatifs indus. Donc la transition agroécologique impose d'inverser cette tendance en agissant d'abord et avant toute chose au niveau du premier pilier de la PAC. Je pense. L'autre chose, c'est que nous pouvons imaginer en France des instruments de politique publique dans le cadre d'une loi nationale. Nous avons déjà essayé de le faire en 1999 dans la loi d'orientation agricole avec le contrat territorial d'exploitation. Si celui-ci a finalement donné des résultats largement plus faibles que les attentes de certains qui s'étaient investis dans la définition de ce dispositif, c'est aussi et d'abord parce qu'il y a une incohérence dans la conduite stratégique politique de la France entre son engagement au niveau de la réforme de la PAC de 2000 et son engagement dans une loi d'orientation nationale. Si la France veut être pionnière, comme l'a réclamé ce matin Stéphane Le Foll, dans la transition agroécologique, elle doit d'abord être pionnière au niveau de la défense de cette transition à l'échelle de la PAC. Nous ne pouvons pas parler d'agroécologie en France et finalement céder au poids des lobbies des firmes agro-industrielles à Bruxelles. Je veux juste un petit mot. Une phrase. Ce que je voudrais dire, c'est que la transition agroécologique impose le même projet politique total qui a été celui de la modernisation agricole dans les années 50-60. La modernisation agricole, c'était de la recherche, c'était de la formation initiale, c'était de la formation des agriculteurs, c'était du conseil, c'était des instruments financiers, c'était des instruments sur les structures, c'était des instruments sur la réorganisation des filières, c'était des lois sociales, hein, la sécurité sociale pour les agriculteurs. C'était l'ensemble et un ensemble cohérent. Nous devons aujourd'hui aller vers la même cohérence politique. Et c'est en ce sens-là que nous devons avoir le même projet stratégique politique que celui du Conseil de la Résistance en 1945, que celui du gouvernement gaulliste en 1958, que celui d'Edgar Pisani en 1962. Et nous devons retrouver les mêmes alliances stratégiques avec des pans de la profession agricole que ce qu'a fait le général de Gaulle en 1958 en s'alliant non pas à l'état-major de la FNSEA, mais au CNJA, qui deviendra l'état-major suivant de la FNSEA, j'entends bien. Autour de ce modèle de l'exploitation familiale. Il faut retrouver une pensée politique, et une pensée politique, ça pense également les alliances, les coins à mettre dans ceux qui apparaissent aujourd'hui vos adversaires. Voilà.